ne sommes pas réunis en vain, puisque Dieu, par son Esprit, est présent parmi nous, et nous allons sans plus tarder nous tourner vers sa parole. En effet, voilà, je disais ce matin aux chrétiens de Rumilly, où je me trouvais, que j'avais entendu à la radio ce fait étonnant, c'est que depuis que ces événements tragiques se sont déroulés, la consommation de tranquillisants, d'antidépresseurs, de somnifères s'est accrue de 18%. Peut-être certains ont entendu cette information. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Ben, je vais vous dire. Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont un sentiment d'insécurité. Alors la peur, c'est une émotion, c'est un sentiment fréquent chez les êtres humains. Et il est intéressant de se poser cette question, mais quelle en est l'origine? Quelle en est l'origine? Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut se tourner bien sûr vers la Bible, vers la parole de Dieu, et particulièrement dans le livre de la Genèse, puisque le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements, c'est le livre des origines. Et nous allons lire quelques versets au chapitre 3, vous voyez, c'est au tout début de la révélation biblique, au tout début de l'histoire de l'humanité, chapitre 3, verset 6. Il est dit ceci, si vous voulez lire avec moi, ou on peut aussi afficher le verset à l'écran, s'il faut lire bien s'en acquitter, s'il te plaît. Et il est dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. » Nous sommes là au tout début de la création, voyez. Nos premiers parents, Adam et Ève, vivaient dans une communion, une relation étroite, intime avec Dieu, leur créateur. Tout allait bien, tout était harmonieux, tout était serein, tout était paisible. Simplement, Dieu avait dit, voilà, au milieu de cet arbre, de ce jardin magnifique, jardin d'Éden, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à l'homme, à l'être humain, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis nous voyons dans quelles circonstances, dans ce texte, le diable a manigancé les affaires de telle sorte qu'il a séduit Ève, qui elle-même a persuadé son mari Adam de consommer du fruit défendu. Et après cela, après avoir transgressé donc l'ordre divin, après avoir désobéi à la parole de Dieu, après avoir péché, parce que le péché, c'est ça, ça n'est rien d'autre que la désobéissance à la loi divine, quelle qu'elle soit, cette loi. Eh bien, ils ont éprouvé un sentiment qu'ils n'avaient pas éprouvé jusque-là. Et lorsque Dieu s'est approché, comme il en avait l'habitude, tous les jours, vous voyez, il y avait cette relation harmonieuse, ils se sont cachés. Et ils ont fait cette constatation, j'ai eu peur. Eh bien, c'est là, vous voyez, que tout a commencé et que cette affaire de peur a fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, nous pouvons dire que la peur, la crainte, c'est une des conséquences, pas la seule, mais une des conséquences, un des résultats du péché. Alors, posons-nous notre question. La peur, comment la vaincre? Parce que mes amis, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de vaincre la peur. de vaincre les diverses craintes qui peuvent, dans toutes sortes de circonstances, s'emparer de nous. Et nous allons voir cet après-midi, avec la parole de Dieu, bien sûr, comment vaincre la peur. Mais tout d'abord, avant de passer au remède, hein, il faut diagnostiquer le mal. Et ne me répondez pas, mais interrogez-vous vous-même. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous terrorise peut-être même à la limite? De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur, tiens, c'est de circonstances, des attentats, des agressions, des accidents, puisque les autorités même nous disent que ces faits tragiques qui se sont produits, il y a de fortes chances ou malchances, ça dépend dans quel sens on le prend, que ça se reproduise, ici ou là. Vous savez, face à ces événements tragiques, douloureux, ceux qui se sont déroulés ou ceux qui se dérouleront encore semblables dans l'avenir, il nous faut prendre conscience que Dieu est capable de nous protéger du danger. Amen. Oui. Dans le psaume 34, verset 8, vous pouvez lire avec moi ou écouter la lecture si la recherche est trop longue. Voici ce qui est dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'ai trouvé une autre traduction du même verset, puisque la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu, puis après les traducteurs se sont mis à l'ouvrage. Et il y a plusieurs traductions en français. Une autre traduction dit « L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent ». J'ai trouvé ça très beau, hein. Un ange qui monte la garde auprès de ceux qui respectent Dieu. Dans le psaume 91, on trouve une parole un petit peu semblable. Et il est dit ceci au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Eh oui, le ministère des anges, vous y croyez? Vous savez, généralement, on présente les anges comme de gros bébés joufflus, avec une paire d'ailes dans le dos. Mais ça, c'est de la blague, mes amis. Quand la Bible nous relate des apparitions angéliques, ce qui est rare, relativement rare, elle nous parle d'êtres glorieux, impressionnants, et ceux qui, eh bien, dans certaines circonstances très, très, très particulières, les ont vus, en ont été vivement impressionnés, tant la gloire de Dieu les illuminait. Qui sont-ils? Ce sont des serviteurs de Dieu, des créatures divines, qui exercent de la part du Seigneur leur fonction en faveur des croyants, notamment pour assurer leur sécurité. Alléluia. Alléluia. Ils sont invisibles la plupart du temps. J'ai jamais vu d'ange, moi. Ils sont discrets, mais ils sont bien réels et ils sont efficaces parce qu'ils possèdent de grands pouvoirs, non pas par eux-mêmes, mais des pouvoirs que Dieu lui-même leur a communiqués. Attention, si nous disons que Dieu est capable de nous protéger du danger, parce qu'il est capable au moment opportun, alors que nous frôlons de près la catastrophe, de nous envoyer un ange pour nous tirer d'affaire, ça ne signifie pas pour autant quand même que rien de fâcheux ne peut nous arriver. C'est vrai, quoi? Vous savez ça. Un chrétien, il peut aussi mourir dans un accident. C'est arrivé. Ça arrivera peut-être dans l'avenir. Mais en tout cas, cela fait partie de notre foi que de croire que rien ne peut nous arriver que Dieu n'ait permis dans sa sagesse et sa souveraineté. Et nous pouvons, de ce fait, à tous égards, rester serein. Parce que mes destinées, disait le psalmiste, sont dans ta main. Voyez ? Et il fait même concourir tous les éléments, toutes les circonstances de notre vie, même les circonstances difficiles, voire douloureuses, à notre bien. On comprend pas toujours pourquoi, mais il sait, lui. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il y a ce verset auquel je viens de faire allusion qui dit ceci. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et l'apôtre de poursuivre, on ne va pas lire tout le passage, mais au verset 35, il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Et au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il ajoute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, il s'agit là des mauvais anges, des anges de Satan, des démons, voyez, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, enfin rien ni personne, quoi, ne pourra nous séparer, ne pourra nous priver de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là, c'est dans ces promesses de la parole de Dieu que nous pouvons, nous, croyants, trouver notre sécurité. Alléluia. Parce que quoi qu'il arrive, heureux ou fâcheux, Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a un verset dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit ceci, « Tout ira bien ». Pour ceux qui aiment Dieu. Eh bien, ouais, c'est vrai. Même quand ça semble aller mal, si nous sommes de ceux qui sont attachés à Dieu, tout ira bien. Et il fera concourir harmonieusement toutes les circonstances de notre vie, finalement, à ce qu'il sait, lui, être pour nous le meilleur. Avez-vous peur aussi, peut-être pour certains, de l'avenir ? Tenez, peur... Pour vos enfants, peut-être, vous qui en avez, est-ce qu'ils vont parvenir à s'insérer dans cette société impitoyable, à faire leur place au soleil ? Est-ce qu'ils ne vont pas échouer aux examens ? Est-ce que les fréquentations qu'ils ont ne les inciteront pas à subir de mauvaises influences ? Est-ce qu'ils ne vont pas plus tard, en grandissant, s'adonner à la drogue, contracter le sida ? Est-ce que vous avez peur que votre conjoint vous quitte ? Peur du chômage, peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. C'est des choses qui peuvent nous passer par la tête, tout ça, oui ou non. On est sur la terre encore, hein. Peur. Alors écoutez ça, écoutez ce que la Bible dit, justement à propos des soucis, des tracas quotidiens que je viens d'évoquer brièvement. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6... Jésus évoque ces réalités. Il dit ceci au verset 25. On va lire tout le passage, ça vaut la peine, hein. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, une longueur à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Attention, il ne faut pas mal interpréter ce passage. Dieu n'est pas en train, le Seigneur Jésus n'est pas en train, là, d'encourager la paresse, en disant, vous ne faites pas de soucis, vous pouvez vivre de l'air du temps. Non, 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 pas du tout. Vous savez, l'Écriture est très claire, elle affirme quelque part que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Comme ça, on est au parfum, hein, si je puis dire. Non, mais si nous lui appartenons, et si nous désirons faire sa volonté, et c'est ce que le verset 33 signale, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, si nous mettons ce conseil du Seigneur Jésus, cette prescription du Seigneur Jésus en pratique, eh bien alors, c'est vrai, en retour, il a promis de prendre soin de nous et de pourvoir à tous nos besoins, besoins ordinaires de la vie. Et il nous faut justement nos besoins, les lui confier, les lui exposer par le moyen de la prière et ensuite lui faire confiance. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 6, nous avons une merveilleuse promesse du Seigneur à ce sujet qui nous dit ceci, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » N'ayez pas peur, quoi. C'est ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement, toute compréhension humaine, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, on peut lui parler de tout au Seigneur. C'est formidable, de tout ce qui nous concerne. Dieu n'est pas simplement celui qui s'occupe des grandes affaires spirituelles et qui nous dira, eh bien, écoute, le commun ordinaire, ça ne m'intéresse pas. Non, mes amis, tout ce qui nous concerne, le concerne. Tout ce qui est pour nous une occasion d'inquiétude, il veut, si je puis dire, s'en mêler pour nous rassurer, nous consoler, nous fortifier, nous décontracter, hein, nous rendre sereins. Il pourvoit en toute chose. On peut lui parler de notre famille, on peut lui parler de notre conjoint, on peut lui parler de nos enfants ou de nos parents, on peut lui parler de notre travail, on peut lui parler de nos finances, on peut lui parler de tout. On peut lui exposer toutes les situations de notre vie, n'est-ce pas, tout ce qui est une occasion de stress pour nous, et lui dire, Seigneur, mais donne-moi un coup de main dans cette affaire. Et je vous assure qu'il le fait, et qu'il est capable même de nous étonner, tant il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Alors puissiez-vous vous en remettre à lui de tout votre cœur. Avez-vous peur de la maladie, du cancer, voyez? Mais même face à ces menaces, Dieu peut nous donner sa sérénité. Avez-vous peur de la mort?
Oh, il y en a qui disent non, je n'ai pas peur de la mort.
Attendez voir qu'elle rôde un petit peu trop près autour de vous et vous m'en direz des nouvelles. Le psalmiste disait dans le psaume 116 au verset 3, les angoisses du sépulcre m'ont saisi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un moment dans sa vie où il a été rempli d'angoisse, de terreur à cette perspective de la mort. Et je dirais ceci, c'est que tant qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, il est logique d'avoir peur de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que après la mort vient le jugement. Alors quand on n'a pas réglé la question de notre péché, parce que c'est de ça dont il s'agit, quand on ne s'est pas mis en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il y a cette peur de la mort qui surgit en nous et qui n'est pas seulement la réaction de l'instinct de conservation, mais c'est également le fait que notre conscience nous avertit que nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous savez, cette pensée de l'éternité, cette pensée de l'au-delà, cette pensée du jugement à venir. On a beau essayer de l'enfouir, de l'évacuer, de l'oublier tout au long de notre vie, aux approches de la mort, moi je vous dis que cette pensée de l'éternité, elle se réveille dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qui suscite la peur de la mort. Il y a un exemple célèbre, exemple historique, l'exemple de Voltaire, ce philosophe qui s'est moqué de Dieu, et particulièrement qui s'est moqué de la Bible et de ses enseignements. Et l'infirmière qui l'a assisté dans ses derniers instants, qui a été à son chevet le soir, la nuit de sa mort, après coup dira ceci: pour rien au monde, je ne voudrais assister une fois encore à l'agonie d'un incroyant. Parce que Voltaire, on ne vous en parle pas trop de ça, était terrorisé par la mort. Pourquoi ? Parce que lui qui avait combattu Dieu, lui qui s'était opposé à la Bible, voyez, lui qui n'avait certainement pas fait la paix avec le Seigneur, eh bien voilà que sa conscience se réveillait et l'avertissait quelque part qu'il allait maintenant au-devant du jugement de Dieu. Et c'est pourquoi il avait peur de la mort. Alors mes amis, ne courez pas ce risque, mais faites en sorte que vous puissiez régler la question. La question de votre futur éternel, la question de votre salut, la question donc de votre péché avec Dieu. Bonne nouvelle, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Et il a vaincu par là même celui qui détient la puissance de la mort, le diable. Et c'est par la foi en Christ que nous pouvons aussi vaincre nous-mêmes. La foi en Christ, ça consiste à le choisir comme Sauveur. Et alors, quand Jésus nous a sauvés, nous pouvons être délivrés de la crainte de la mort. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2, au verset 14. Voulez-vous lire avec moi, s'il vous plaît, ou écoutez tout simplement ce verset qui est capital. Il est dit ceci: par la mort, il, c'est-à-dire Jésus, par la mort, le milieu du verset 14, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Quand Jésus vient dans notre vie, la question de l'éternité est réglée. Je vous assure que c'est possible de regarder la mort en face et de partir sereinement. J'ai parfois été au chevet de chrétiens, dans leurs derniers jours ou même dans leurs derniers instants de vie. Non pas des gens à qui on avait caché la vérité en disant « tu vas t'en sortir, ça ira mieux d'ici quelque temps ». Non, des gens qui étaient lucides. Des gens qui savaient qu'ils arrivaient maintenant au terme de leur vie, et puis voilà quoi. Et c'est glorieux, oui glorieux. C'est même, c'est paradoxal de parler comme ça, c'est même bienfaisant. C'est encourageant de constater qu'un croyant, face à la mort, il a une ferme assurance dans son cœur. Il sait où il va, alléluia. Il sait que Jésus, qui s'en est allé lui préparer une place, va maintenant l'accueillir et le recueillir auprès de lui. C'est ce qui va permettre, par exemple, à David d'écrire dans un de ses psaumes fameux: « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Parce qu'il a un courage de lion ? Mais non ! « Je ne crains aucun mal, dira-t-il, car tu es avec moi. » Oui, mes amis. Pour ne pas avoir peur de la mort, eh bien, il faut avoir l'assurance, la certitude de savoir que quand elle surviendra, Jésus en personne nous accompagnera pour traverser ce noir passage et qu'il nous retrouvera de l'autre côté, où il nous a préparé une place. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voyez, en tout domaine, en toutes circonstances, nous pouvons triompher de nos peurs. Alléluia. Et je voudrais lire avec vous un ou deux versets pour finir. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 16. Voilà ce qui est écrit. Ah, c'est un beau verset. L'apôtre Paul nous dit ceci. Que le Seigneur de la paix, le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la paix en tout temps, c'est-à-dire en toutes circonstances, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Jésus, parce que c'est de Jésus dont il est question là, est appelé le Seigneur de la paix, le Maître de la paix, celui qui est capable de répandre la paix dans les cœurs troublés, anxieux, inquiet, paniqué, stressé, effrayé, terrorisé. Il est le Seigneur de la paix. Donc, si vous voulez bénéficier de sa paix, il faut que vous fassiez de lui votre Seigneur. Il ne peut être votre sauveur que s'il est votre Seigneur. C'est-à-dire si vous acceptez que son autorité bienveillante, certes, pleine d'amour et de grâce, certes, mais autorité malgré tout, s'exerce sur votre vie. Qu'enfin vous décidiez de vous plier à ses commandements, ses prescriptions, ses exigences. Et comment ça commence, ses prescriptions, ses exigences, ses commandements? Ça commence par ça. Repentez-vous de vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que donnant sa vie sur la croix, Jésus a expié vos fautes. Vous ne pourrez jamais vous-même les expier, ni par vos efforts, ni par de bonnes actions, ni par quoi que ce soit, des œuvres de piété, des sacrements, des rites religieux. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Jésus a tout accompli. Il a expié vos péchés, il a subi à votre place la peine, le châtiment que vous méritiez. Et il vous suffit de vous confier en lui et de lui dire, Seigneur, je crois que maintenant, ouvrant mon cœur à ta grâce, je reçois de ta part le pardon dont j'ai besoin. Seigneur, je viens à toi, je t'accepte, je te reçois et je désire que désormais, ce soit toi qui règnes sur ma vie, que ce soit toi qui prennes les rênes en main de mon existence et que tu me conduises. Seigneur, je veux m'appliquer avec ton aide à faire ta volonté. Alors il sera votre sauveur. Alors il sera votre Seigneur, et puisqu'il sera votre Seigneur, le Seigneur de la paix vous donnera sa paix. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur, afin que si au milieu de nous, ceux qui pourraient être dans une situation telle que nous l'avons décrite, pour une raison ou pour une autre, puissent trouver cet après-midi la grâce et la paix de Dieu dans le nom et dans la personne de Jésus, notre Sauveur. Amen.